toujours voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Les films sont plus harmonieux que la vie, je pense. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde. Tous les cinémas du monde. Elisabeth Le Quéret, Sophie Torlotta.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue ce samedi dans tous les cinémas du monde. Bonjour Sophie.
Bonjour Elisabeth.
C'est notre grand plaisir d'accueillir aujourd'hui une actrice qui est un peu la marraine de notre émission parce que nous avons souvent parlé de ses films, parce que nous l'avons souvent reçue ici à RFI dans nos studios. Une comédienne qui a beaucoup de cordes à son arc, qu'elle tourne devant la caméra de son partenaire à la ville comme à la scène, Robert Guédiguian, ou dans la série israélienne Possession, qu'elle s'envole avec les fées sous le regard bienveillant de sa complice, Marie Desplechin, ou qu'elle brûle les planches avec Dario Fo, Aragon, Nora Ephron, ou encore Simon Abkarian, et j'en oublie beaucoup. Bonjour Ariane Ascaride.
Bonjour Elisabeth. Bonjour Sophie.
En préparant cette émission, je me disais, on va suivre le fil d'Ariane, ça va être simple, mais en fait, il y en a tellement qu'on va être obligé de faire des choix drastiques, des choix qui vont nous conduire d'une petite calanque marseillaise à Créteil, en passant par l'Arménie ou Tel Aviv. Mais avant, on va s'arrêter sur le 8 rue d'Alger à Marseille, où vous avez grandi entre une mère dont vous dites, Ariane, qu'elle était silencieuse et secrète, et un père napolitain, coiffeur par nécessité et comédien par vocation, qui vous a très jeune donné l'envie de monter sur les planches. Ce père à qui vous dédiez ce recueil de lettres que vous avez écrites au printemps dernier, quand toute la France était confinée. Ça s'appelle « Bonjour, pas ». Je ne sais pas si je le prononce
très bien.
C'est paru aux éditions du Seuil. Le sous-titre, c'est « Lettres au fantôme de mon père ». Et j'aimerais beaucoup, Ariane Ascaride, j'aimerais beaucoup commencer cette émission par une petite lecture, celle de la page 23.
Je suis née dans un monde sans argent, fille de la classe populaire. J'ai appris une culture du monde et des sentiments, et j'aime ça. J'ai grandi malgré des difficultés dans l'insouciance du devenir de cette planète qui était pour moi très solide, très accueillante. Je ne crois pas que les enfants du 21e siècle connaîtront mon insouciance. Ils devront se battre pour retrouver des ambiances urbaines ou campagnardes qui pour moi étaient naturelles. Les hirondelles arrivaient au printemps, la neige l'hiver tombait sur les montagnes et les antibiotiques étaient des médicaments miracles.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ariane. Je disais que ce recueil de lettres, il est adressé au fantôme de votre père. Ça pourrait aussi s'appeler l'art d'être grand-mère.
Oui, ça peut s'appeler comme ça aussi, oui, oui.
Victor Hugo. Est-ce que c'est une chance pour vous d'avoir été jeune au début des années 80 ou à la fin des années 70?
Oui, c'est ça, la fin des années 70, c'est début des années 80. Oui, je pense que ça a été une chance, mais moi, je remonte plus loin. Ça a été une chance d'avoir le droit d'avoir une enfance peut-être très compliquée, mais dans l'insouciance du monde dans lequel je vivais, quoi. C'est-à-dire de pas me poser la question de savoir, effectivement, comme je dis, si le printemps reviendra ou pas, quoi. Il y avait quelque chose comme ça de naturel. Il y avait du naturel. Il y avait de la nature, donc. J'habitais à Marseille, je pouvais prendre un autobus puisque j'étais scout les dimanches. Et avec mes camarades scouts, on prenait un autobus, on sortait très vite de la ville et on était dans les collines. On était vraiment dans la campagne. Il n'y avait pas tellement de différence, par exemple, pas pour faire du folklore, mais c'est quand même une chose claire. Il n'y a pas tellement de différence entre les collines que racontait Marcel Pagnol et celles que moi, dans lesquelles je me baladais le dimanche. Aujourd'hui, c'est pas pareil. C'est plus compliqué. D'abord, il y a beaucoup plus de monde dans les collines parce que les gens, ils ont besoin de respirer. Et puis, il y a beaucoup plus de maisons qui sont construites. Et ça, c'est plus embêtant. Il y a plus de propriétés privées. Il y a plus de choses comme ça.
Alors, justement, avant de repartir dans les collines marseillaises, on va aller faire une petite virée sur la corniche de l'Estac avec Gilbert et Josiane. Donc Josiane, c'est vous, Ariane Ascaride, et Gilbert, c'est Gérard Meilhan. Vous êtes réunis pour un dernier été, hein, c'est le titre du film. En fait, ce sera le premier cet été. Ce sera le premier d'une histoire magnifique.
Bonjour.
Bonjour. Tu as pris la voiture de Balin, là ?
Ouais, bien que je t'amène à la mer.
D'accord.
Et tu travailles toute la journée ?
Qu'est-ce que tu crois ?
Ah, c'est vrai. Bien longtemps que tu travailles là ?
Ah, ça fait 2 ans. C'est pas très intéressant, mais j'ai rien trouvé d'autre, alors.
Qu'est-ce que tu voudrais faire ?
Ma foi, je sais pas. De la couture, peut-être. Ça me plairait de faire des robes.
Ah, c'est beau, les robes. Mais tu en as déjà fait ?
C'est moi qui m'en fais les miennes. Mais, d'ailleurs, la dernière que j'ai faite, elle était très jolie. Elle avait des manches à kimono, et puis elle était froncée à la taille. Tu vois ce que je veux dire ?
Oui. Non, pas du tout.
Et toi, tu travailles tous les jours ?
Ah non. Sur le moment, je suis au chômage. Enfin, je me démerde. Hein.
Ah. Et qu'est-ce que tu voudrais faire ?
Oh, je sais pas, rien.
Mais sérieux, il n'y a pas des choses que tu voudrais faire ?
Oui, dans mon boulot, la ferronnerie, c'est bon. Mais si tu veux, il faudrait monter une boîte et souder des portails toute la journée. Pour faire ça, je préfère encore aller à la pêche.
Ah, t'as raison. Bon, si j'en ai marre de cette usine.
Dernier été, c'est votre premier film, Ariane, devant la caméra de Robert Guédiguian. Mm-hmm. Alors, on est à l'Estac, près d'une usine de ciment, mm-hmm. hein, qui va devenir presque un personnage à part entière dans
c'est,
la...
C'est étonnant là, d'entendre ça, je crois que j'avais plus entendu ça depuis 40 ans, je crois. Et c'est très étonnant. Parce que c'est annonciateur de comment on va travailler. Là, on est en train de... Moi, je suis très sensible aux voix. Et on est en train, Gérard et moi, de découvrir qu'est-ce que ça nous fait de jouer ensemble, en fait. Alors qu'on se connaissait déjà, hein, puisque Gérard Mélan, c'est mon témoin de mariage. Donc, vous voyez, on se connaissait déjà. Et là, moi, quand j'entends tout, quoi. C'est-à-dire que j'entends les premiers pas d'une aventure et d'une manière de travailler. C'est-à-dire cette espèce de mélange qu'on est arrivé à faire entre notre amitié, nos rapports amicaux et le travail, quoi, et les personnages qu'on doit interpréter.
Alors vous, Ariane, lorsque vous tournez Dernier été, vous êtes déjà comédienne. Enfin, vous
oui,
avez
je sors du Conservatoire de Paris, oui, oui.
Mais ouais. C'est pas forcément le cas de tous ceux avec qui vous travaillez sur ce film.
Ah non, il y a que moi. Les autres, ils ont jamais fait de cinéma. Mais Guédiguian non plus, il a jamais fait de cinéma. Hein. Vous voyez, ils sont tous... Il y a que moi qui ai déjà joué au théâtre, qui ai tourné avec René Ferré sur un film qui s'appelait La Communion solennelle, et René Alliot. Aussi, j'étais dans un film qui s'appelait Retour à Marseille, mais c'était, on avait tous 24, 25, voilà, 26 ans, enfin c'est un truc de fou. Robert, il savait même pas ce que c'était une saute d'axe, heureusement qu'il avait une script formidable qui lui disait les trucs, quoi, mais on est parti comme ça, et Gérard avait jamais joué de sa vie, jamais.
Mais alors pourquoi lui, alors?
Parce que je pense que ça...
C'est l'amitié, c'est les copains d'abord?
Non, parce que je pense qu'effectivement, Gérard Mélan représentait, c'est l'alter ego de Guédiguian. Et Robert avait besoin de cet alter ego-là. Il ne pouvait pas imaginer un acteur pour faire ça. Il avait besoin de cette sincérité-là. Or, il s'est avéré que Gérard peut être un très bon acteur.
C'est vrai qu'il a souvent été votre amoureux.
Ah oui.
Gérard Mélan, mm-hmm. dans cette filmographie si longue. Et moi, j'aime beaucoup cette scène parce que la caméra, enfin, je ne sais pas quel budget vous aviez pour faire ce film, dans quelles conditions vous l'avez tourné. Mais alors, la caméra, vous êtes dans la voiture et mm-hmm. la caméra, on sent que c'est vraiment le chef opérateur qui est derrière et qui ne bouge plus. C'est-à-dire, il n'y a pas d'effet, c'est vraiment...
Le chef opérateur s'appelait Gilberto Azevedo, il était brésilien, on a fait plusieurs films avec lui d'ailleurs, je crois que Dernier été doit beaucoup à Gilberto, même si des fois Robert et Gilberto s'engueulaient, tout ça, mais Gilberto, qui était quand même un chef opérateur qui travaillait beaucoup, beaucoup, a dit « Ok, je viens faire ce film-là » et Gilberto, c'est vraiment un personnage à la Georges Amado, quoi. C'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire et il a beaucoup participé à ce film-là, quoi. Si dernier, on lui doit beaucoup. Effectivement, c'était un super caméraman, c'est un mec à l'épaule, ça bougeait plus. Et voilà, Il a, en fait, je crois que lui aussi, ça l'amusait beaucoup de faire ça. Vous pouvez pas imaginer. Il y a eu des trucs que ça tenait avec.
Il y a un... avec un bout d'élastique.
Ah ouais, 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 avec des ficelles, des machins comme ça, c'était dingue. Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa. Se chiudi gli occhi lei lo sa. Stella di periferia, Anna con le amiche. Anna che vorrebbe andar via.
Marco grosse scarpe, poca carne. Marco cuore in... Vous êtes sur RFI avec notre invité Ariane Ascaril. C'est Anna et Marco hein, par Lucio Dalla. C'est une chanson qui a un sens particulier pour vous, Ariane Ascaril, je crois.
Ben, en fait, cette chanson, c'est Robert et moi. Enfin, c'était
comment
très,
ça?
Bah, c'est-à-dire que c'est très étonnant parce que on a découvert Lucio Dalla assez tôt par nos amis italiens et quand on a entendu cette chanson, sans se le dire parce qu'on n'est pas des gens qui comme ça se parlons pendant des heures pour dire les trucs, mais Anna qui veut danser, moi je voulais tout le temps danser et Robert il avait effectivement des grosses bottes et il était maigre. Et c'est ça qui est dit et dans la chanson, donc c'était très étonnant quoi. Et moi j'ai permalose, ça veut dire qu'elle est susceptible, moi j'étais susceptible, enfin c'était très très étonnant. On s'est toujours dit que cette chanson, il y avait un hasard de la vie qui avait fait que on pouvait dire qu'elle avait été écrite pour nous. Elle a pas du tout été écrite pour nous, mais en tout cas nous on la revendique.
Et cette chanson, elle marque un peu vos débuts dans le monde, j'allais dire un gros mot, hein, le monde professionnel. Mmh. Et vous avez commencé tous les deux en même temps. Il y a quelque chose d'un peu crucial parce que c'est pas totalement gratuit, quoi. C'est-à-dire d'avoir construit les choses, d'être arrivé au même moment ensemble.
Bah, c'est une chance d'avoir, parce que ça aurait pu ne jamais arriver. Et je pense que si c'est arrivé, c'est parce que il y a nous deux, mais il y a aussi Jean-Pierre Darroussin, il y a Gérard Mélan, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui s'est créé, un groupe. En fait, si on faisait pas ça, on ne s'en serait jamais sorti, quoi. On n'y serait pas arrivé. Peut-être Jean-Pierre serait arrivé, lui, tout seul, parce qu'il a très vite démarré. Mais moi, je ne correspondais à aucun canon du cinéma français dans les années 80, quoi. J'avais tout faux, quoi. Mais vraiment tout faux. Robert racontait des histoires qui n'étaient pas obligatoirement ce qu'on racontait au début des années 80. Voilà, on a fait corps pendant des années quand même. Hein. On a fait corps, on s'est épaulé et c'est ça qui est formidable, c'est que d'un coup, pouf, on est sorti. Mais comme on avait fait ces choses tous ensemble, on est tous sortis ensemble. C'est ça qui est formidable. Quoi.
À quel moment vous avez compris que vous étiez, que vous formiez non plus un groupe de copains, comme disait Sophie, mais presque une troupe professionnelle.
On l'a jamais compris, nous. C'est les gens qui nous disaient. C'est, vous voyez ce que je veux dire? Parce que nous, on est simplement, on est une bande, une tribu. J'aime pas trop le mot famille, mais on n'est pas une famille. On s'est choisi vraiment les uns les autres.
Une famille d'élection.
Oui, voilà, une famille. Et on s'est et on a toujours gardé, et on garde toujours cette attention les uns par rapport aux autres. Et puis après, c'est formidable quand d'un coup, pouf, il y a des gens qui commencent à vous dire « Ah, mais alors ce que vous faites, mais c'est incroyable, mais comment ça marche Donc vous êtes au fond hyper fiers, il faut bien le dire. Et puis surtout, super content qu'on l'ait tous fait ensemble, quoi. Voilà, c'est ça le truc. Et du coup, on est tous ensemble et du coup, en même temps, chaque personnalité elle-même, du coup, a pu faire d'autres choses, revenir, partir, revenir. Et puis après,
accueillir des nouveaux membres.
Accueillir hein. Anaïs, Lola, Grégoire, Robinson. Et voilà.
Anaïs de Moustier.
Anaïs de Moustier, oui, Robinson pardon. Anaïs de Moustier, Lola Neymac, Robinson Stévenin.
Voilà, qu'on a vu dans Gloria Mundi, le
voilà,
dernier film d'Orlac
et Dijon. Prince Ringuet. Et c'est pour nous...
C'est une nouvelle génération.
Oui, mais pour nous aussi, c'est extrêmement réconfortant. Des jeunes acteurs qui ont envie...
De transmettre aussi.
Oui, et puis de se jeter dans cette bande, c'est épatant. Mais en fait, je crois que je me rends compte que il y en a plus que ce qu'on croit maintenant des jeunes gens qui font ça. Parce que c'est tellement difficile. Là, je vois, par exemple, je viens de faire ce film Dylan Klipper et j'ai eu droit à une déclaration vraiment de respect de la part des gens de son équipe en disant qu'on était un exemple, que... Alors, j'ai l'impression d'avoir 140 000 ans, quoi, qu'on était un exemple, qu'ils avaient envie aussi de travailler comme ça. Mais moi, je dis bravo, super, allez-y, il faut travailler comme ça, parce que sinon, on s'en sortira. Enfin, si on a vraiment quelque chose à dire qui est effectivement de la création, et non pas simplement de faire du divertissement, mais de la création, ça demande effectivement de transgresser des choses et d'arriver avec un langage qui est le vôtre, votre propre langage. La plupart du temps, vous êtes mal reçus. Parce que c'est pas ça qu'on veut. On veut ce qui a été fait, qui a marché.
On veut des produits calibrés.
Voilà. On veut, voilà, c'est un truc qui a marché, on reveut la même chose. Et donc, il faut se battre pour être accepté. C'est mieux quand on est plusieurs, on y arrive mieux, quoi.
Alors nous, on ne va pas refaire la même chose, mais par contre, on va repartir au même endroit, l'Estac, avec la rencontre un peu rugueuse dans une cimenterie entre Marius, donc Gérard Mélan, faux boiteux et vrai gardien de chantier, et Jeannette, mère célibataire et caissière de supermarché. Jeannette, donc grand cœur et grande gueule, dont elle nous livre ici un petit aperçu.
Arrête-toi!
Merde! N'inquiète plus que c'est un gardien. Ma maison va tomber en ruine si je ne mets pas une couche de blanc sur les murs. Elle est fermée depuis 6 mois, cette usine. Tout le monde les a oubliés, ces malheureux pots de peinture. Si je ne les prends pas, ils vont pourrir sur place. Tu pourrais me les donner?
Mais les barjots. Tu es barjot ou quoi? Tu crois qu'ils sont à moi? C'est pour la peinture? On me paye pour les garder. Donne-moi tes papiers.
Mes papiers?
Oui, tes papiers.
Et en plus, tu vas me dénoncer aux flics, garde tes pots et lâche-moi. Elle est pas à toi, cette usine. Tu viens de me le dire. J'ai pas de sous pour la peinture. Je vais pas aller à Dole pour ça. Je suis pas la fille de Jean Valjean, moi. Alors, je te laisse tes pots et je me barre.
Dis, arrête-toi un peu de parler et donne-moi tes papiers, je te dis.
Fasciste.
Quoi? Qu'est-ce que tu as dit?
J'ai dit fasciste. Tu es un ouvrier comme moi, non? Qu'est-ce que tu as à foutre, cette peinture? Merde! Heureusement que je suis pas arabe, sinon tu vas me tirer dessus.
Tais-toi. Prends tes papiers, va-t'en. Hein.
Ben,
chut, chut, tais-toi, va-t'en et en silence. En silence.
Et la peinture.
Allez, allez.
Ça me fait rire parce que, en fait, quand on a tourné cette séquence, on avait fait un pari avec Gérard. Je lui avais parié que j'allais parler tellement vite qu'il allait pas pouvoir dire ses répliques. Donc, c'est ça qui fait que je parle comme ça. Et c'est un jeu. En fait, c'était un jeu. Je lui avais dit, tu vas voir, tu vas pas y arriver à l'idée. Et voilà, c'est pour ça que ça donne ça. Et en même temps, c'est vachement bien. Là, quand je le réécoute, je me dis vraiment, c'est vachement bien. Et on rigolait beaucoup parce que pour ça, c'est quand il dit stop, stop, c'est là que il fallait vraiment. Effectivement, déjà, sur Marius, voilà, on était arrivé à une espèce de complicité déjà qui était assez grande, donc on joue quoi.
Marius, ça fait quoi? Ça fait 12 ans en fait que vous travaillez ensemble, plus que ça.
Oui, Marius, 96, on le tourne en 96. Oui, ça fait 16 ans qu'on avait commencé en 80.
Alors, on dit que le chiffre 7 est magique, et peut-être l'est-il au vu du destin de ce film, le 7e que vous avez tourné avec Robert Guédiguian, Ariane Ascaride. 2,5 millions d'entrées en salle.
En France. Et le tour du monde.
Et le tour du monde. Et le prix Louis Deluc et le prix Lumière du premier film. Pour vous, Ariane, en 98, le César de la meilleure actrice. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Parce que ça faisait 16 ans que vous étiez connue, reconnue, mais c'était un petit cercle. Hein.
C'était un tout petit cercle.
Là, tout à coup, le monde entier vous connaît.
C'était un tout petit cercle, Elisabeth. Hein. Connue, reconnue, c'était vraiment difficile. C'est-à-dire que je peux vraiment dire que je suis passée de l'ombre à la lumière à Cannes en mois de mai 1997, mais vraiment de l'ombre à la lumière en 1h30. Et c'est une drôle de chose.
C'est magique, c'est violent.
C'est les deux, mon capitaine. C'est très magique et c'est un peu violent, mais enfin cette violence-là, on la supporte assez. C'est-à-dire que tout devient complètement fou, quoi. Vraiment, en 1h30, vous arrivez, vous n'êtes personne. En plus, j'avais perdu mon billet pour entrer dans le palais. Le mec de la sécurité, il voulait pas me laisser rentrer. Et je disais, mais il faut que je rentre parce qu'il faut que je présente le film.
C'est, on c'est était une constante chez regard. Vous, hein, que le mec de la sécurité ne veuille pas vous laisser rentrer.
On ne va jamais me laisser rentrer. Et après, avant la fin de la projection, les gens d'un certain regard sont venus nous chercher. On était dans le café en face, le palais, on attendait la fin de la projection. Ils sont venus nous chercher pour qu'on remonte sur le plateau, ce qui ne se fait jamais. Et il y a eu 20 minutes d'applaudissements.
20 minutes.
C'est très très long. Les gens étaient hystériques. Mais hystériques, joyeux, quoi. Ils nous priaient qu'ils nous aimaient et tout ça. Moi, et j'avais Guy Dillon à côté de moi qui disait « Tu ne pleures pas. Tu ne pleures pas. » Moi, j'étais évidemment une espèce de serpillère. Je savais plus où j'en étais. Et on est sorti de ça et je me suis retrouvée au Carlton à une remise de Légion d'honneur à Robert De Niro et tout ça. Donc d'un coup, si vous voulez, d'un coup, on m'a présenté Robert De Niro. Enfin, c'était complètement fou, quoi. Une heure et demie avant, je pouvais pas entrer dans le palais, personne savait qui j'étais. Donc ça a été... en fait, je souhaite à pas mal de gens de le vivre, parce que c'est assez incroyable, quoi. C'est d'un coup magique, même si ça vous secoue. On est resté 3 jours à Cannes, on n'est pas arrivé à dormir, on essayait d'aller se coucher, on sautait, on était des pois sauteurs, on n'arrivait pas du tout à dormir. Tout le monde nous aimait, tout le monde nous trouvait formidables. Enfin, c'est très... Et moi, je suis quelqu'un de très méfiant, donc... Je me disais, qu'est-ce que c'est que cette salade? C'est quoi ce truc? J'arrivais pas à me lâcher, quoi. J'arrivais pas à me détendre, vraiment. Parce que, pourquoi d'un coup je devenais quelqu'un de formidable alors que 3 jours avant, j'étais personne? Et ça, c'est bien parce que je n'avais pas 20 ans. J'étais plus âgée. Et ça, c'est bien. Ça m'a aidée.
Et vos amis, je crois, c'est ce que vous disiez dans un article dans Le Monde, ont eu peur que vous trahissiez, enfin, en tout cas, que vous perdiez un peu votre boussole à ce moment-là, au moment du succès de Marius
et Jeannette. Tout le monde a eu peur de ça. Mais moi, non. Non, non. Vous savez, j'ai fait un truc, et je l'ai souvent fait quand je reviens de festival, c'est un truc que je fais, et je fais le ménage et je fais les courses. Parce que ça me recadre. Vous voyez? Parce que quand vous êtes dans un festival, vous demandez un verre, ou hop, ça arrive, vous voulez manger, on vous met une chaise sous les fesses, vous allez manger au restaurant quand ça existait encore, d'aller manger au restaurant, tout était, c'était réservé, il y avait une table, voilà, vous mangiez avec des gens, des acteurs, vous mangez avec des gens, des étrangers que vous avez rêvé de rencontrer, ils sont là, enfin, tout est comme ça, et tout le monde passe son temps à vous dire, vous êtes formidable, ça nous fait tellement plaisir que vous ayez accepté de venir au festival.
On a vite fait de pouvoir perdre la tête, non?
Ah ben oui. C'est pour ça que je dis que j'ai eu de la chance de pas avoir 20 ans, parce que c'est très dur pour une jeune actrice ou un jeune acteur, quoi, de résister à ça. Faut faire attention, quoi. Et puis, moi, ça m'amuse, quoi. Enfin, ça m'amuse.
Et dans un autre registre, le sous-titre qu'on a un peu oublié de Marius et Jeannette, c'est un conte de l'Estac. Et j'aime bien parce qu'il a un côté un peu topographe guédiguian. C'est-à-dire que cet extrait qu'on vient d'entendre donc se passe dans cette usine de ciment qu'on aurait pu raccorder à l'extrait de dernier. On pourrait presque
tout
faire un montage.
Il fait ça tout le temps. Et en fait, la plupart du temps, alors c'est un peu compliqué parce que c'est un archiviste aussi. Parce qu'en fait, les endroits où ils tournent, bien souvent disparaissent après le tournage. Cette cimenterie n'existe plus.
Ah bon?
Ben non. On a tourné alors qu'ils étaient en train de la détruire. Donc, elle a été détruite.
Donc, vous avez documenté la disparition aussi
Si on veut voir comment l'Estac a bougé, il faut regarder les films de Robert. C'est très, très étonnant.
C'est le monde ouvrier via le prisme
cette usine qui, quand moi, je suis arrivée à l'Estac, parce que moi, j'habitais à Marseille quand j'ai rencontré Robert, mais je ne connaissais pas l'Estac, puisque Marseille, ça fonctionne par quartier. Donc, j'étais jamais allée à l'Estac. Dans cet endroit-là, il m'a emmenée dans cette cimenterie, il me l'a montrée. Tout autour, la végétation et les maisons étaient recouverts d'une fine poussière blanche. C'était terrible, c'est horrible d'habiter là. Aujourd'hui,
oublié.
Aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est un point de vue absolument génial. Tout le monde a envie d'habiter là, puisque en plus, l'Estac, sa population ouvrière est vieillissante, et donc ça devient un endroit. C'est la faute à Guy Dillon d'ailleurs, mais ça devient un endroit chic où il faut aller habiter, quoi. Voilà.
Alors, l'ESTAC, on y reviendra, hein, mais pour l'instant, on part pour un collège de Créteil. Une prof d'histoire face à une classe ingérable, insupportable, irrécupérable. Cette prof, c'est vous, Ariane Ascaride, avec vos petites lunettes en écaille, votre pas décidé, vos talons qui font clic-clac-clic-clac dans les couloirs de l'école et puis votre veste rouge. Vous êtes au bord de tout laisser tomber quand le film commence.
Je vais vous rendre votre devoir sur table. Alors, vous êtes 6 ou 7, je crois, avoir la moyenne, et j'ai 16 notes en dessous de 5. Il n'y a rien dans vos copies. Ça vous fait rire, Olivier? Pendant que vous vous amusez, les autres avancent. La course a commencé, vous, vous êtes toujours dans les starting blocks. Vous accumulez les obstacles. Il y a un monde de l'autre côté du périph', et vous y avez votre place. Mais... je parle à des gens qui font semblant de m'écouter, semblant de me regarder. Je suis là, vous me voyez? Est-ce que vous me voyez? Je peux savoir ce que vous faites debout, Mélanie?
J'ai pas fait valider ma carte de cantine, il va être 11h, je peux y aller?
Non, fallait y penser avant.
Ok, je mange comment, moi?
Mais c'est pas mon problème, les autres font comment? Les règles sont les mêmes pour tout le monde.
Je m'en fous de tes règles, moi.
Ce que j'ai dit n'attendait pas une réponse parce que ce n'était pas une question.
En gros, vous en avez rien à foutre si je bouffe, quoi.
Ni un commentaire. Vous avez tort, j'ai raison. Asseyez-vous. Vous viendrez me voir à la fin du cours. Asseyez-vous.
Voilà, il y a une vie de l'autre côté du périph', hein. Donc, Ariane, vous êtes une enseignante, une prof d'histoire, qui propose à ses élèves de participer au concours d'histoire de la résistance.
Concours national de la résistance et de la déportation. C'est un concours qui existe, hein, vraiment.
Voilà, et donc ce film, vous l'avez réalisé avec des professionnels, mais aussi des élèves d'un lycée Créteil.
Alors, la réalisatrice, c'est Marie-Cathy Mention-Char.
Ça s'appelle Les Héritiers, voilà. Et c'est un film de 2014, où on voit justement des jeunes qui ont un peu, qui sont enfermés dans leur propre échec et qui vont tout à coup s'ouvrir, s'éveiller à la curiosité et puis sans doute aussi... à l'estime de soi.
C'est une très belle histoire parce que ce professeur existe. Je l'ai connu après avoir fait le film parce que je me disais que j'avais pas envie de la rencontrer avant. Et c'est une femme extraordinaire. Elle s'appelle Anne Anglès et j'aime bien dire son nom parce que c'est vraiment le professeur que tout le monde rêve de rencontrer. C'est un professeur exceptionnel. C'est une femme exceptionnelle. Et donc, elle avait cette classe de seconde dont on ne savait plus que faire. Et elle, pour des raisons personnelles, a décidé de leur faire passer ce concours-là. Son proviseur lui a dit « Mais pourquoi vous faites passer ce concours à cette classe? Ils sont nuls, il y a d'autres classes. » Elle s'est battue, ils ont gagné, en collectif, parce qu'il y a un prix soit collectif, soit un prix tout seul. Ils ont gagné, et 2 ans après, tous ces élèves ont réussi le baccalauréat, donc 17 avec mention très bien. Voilà, c'est juste ça que je veux dire. Ça veut dire que un professeur qui se bat, un professeur qui a la possibilité de faire son boulot, peut arriver à faire des miracles. Aujourd'hui, quand ce scénario a été écrit par Ahmed Dramé, qui était un de ses élèves, qui tourne, qui joue dans le film, et il y a deux acteurs, il y a Noémie Merlan que vous entendez dans l'extrait, qui est devenue une actrice dont tout le monde parle.
Puisqu'on l'a vu dans Portrait de la jeune fille en
voilà. Et il y a Ahmed Dramé et Stéphane Bach qui jouent dans ce film et qui viennent de tourner avec Guy Dillon en Afrique.
Voilà. Et le film raconte un miracle, mais le film en soi est aussi un petit miracle puisqu'il a eu un grand succès populaire. Je crois que la semaine de sa sortie, il avait fait 128 000 entrées.
Ah ouais, non, mais ça a été... Et c'est un film qui... que la télévision française a fait passer, on s'en serait passé d'ailleurs, après le décès de Samuel Paty. C'est ça qu'on a mis
donc
à la télévision.
Cet homme qui a été décapité,
ce professeur qui a été décapité. Et c'est un film qui passe, que Ahmed continue par exemple à faire des rencontres dans des classes, voilà, et en parlant de ça.
Vous, qu'est-ce qui vous fait dire oui à un scénario, Ariane Ascaride? Je ne parle pas de ceux de Guy Dillon.
Non.
Encore
non.
Que.
Oui, non, mais enfin, avec Guy Dillon, je dis, il me dit, ouais, c'est ça, mais tu vas le faire, tu vas voir. Voilà. Je suis une femme brimée. Mais, par exemple, sur Les Héritiers, c'est le scénario. Moi, je suis très sensible au scénario. Je viens du théâtre, je viens de l'écriture, Il faut que ça soit écrit, quoi. Il faut que ce qu'on raconte, ça soit bien écrit et que ça raconte quelque chose qui m'apporte. Sinon, pour faire de la quantité, je m'en moque. Enfin, vraiment, là, maintenant, à l'âge que j'ai et tout, mais alors je m'en fous, mais c'est inimaginable à quel point je m'en fous.
Tourner avec d'autres réalisateurs ou réalisatrices, hein, je pense à Marie-Christine Mention Charme, et je pense aussi à Emmanuel Mouret.
Pour j'adore vous, Emmanuel.
Vous avez tourné deux films
avec Emmanuel.
Avec lui, certainement plus à venir. Est-ce que c'est pour vous une forme de respiration aussi?
Ah bah,
pour mieux revenir dans le clan Guédiguian.
Oui, oui, non, mais bien sûr, mais c'est-à-dire que c'est assez rigolo maintenant. C'est-à-dire que les gens viennent chercher de nous dans cette bande parce qu'ils ont aussi envie qu'on vienne faire des trucs avec eux, quoi. C'est ça qui est rigolo. Et puis, moi, il y a vraiment Emmanuel Mouret, par exemple, c'est quelqu'un que... Emmanuel, il est aussi de Marseille, mais il est des quartiers sud, comme on dit. Et Emmanuel, il n'est qu'élégance... Par exemple, son dernier film, j'adore.
Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait.
Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Ou Mademoiselle de Jonquière. Enfin, c'est quand même un garçon qui manie, par exemple, sur Mademoiselle de Jonquière, qui manie le langage d'une manière absolument magnifique. C'est du quasi du Marivaux, quoi. Enfin, moi, j'ai beaucoup pensé à ça. C'est un garçon formidable. Et puis aussi, eh ben, moi, j'ai envie de travailler avec des gens que j'aime bien dans la vie. Vous voyez, les conflits, les machins comme ça. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Les conflits, il y en a tout le temps. Comme vous disiez, j'ai une grande bouche. Je peux.
Ah, moi, je parlais de Jeannette. Hein.
Non, non, mais moi aussi. Et je n'ai jamais caché mes opinions. Je cache jamais ce que je pense. Donc, les conflits dans la vie, je peux en avoir. Mais il faut que je croie complètement en un scénario et que j'ai envie de participer à l'aventure qu'un réalisateur ou une réalisatrice me propose et qu'il y a un lien qui se crée, qu'on échange, que ce soit pas simplement du travail, que ce soit un instant, un moment de vie tout court, quoi, que de faire ce tournage-là.
C'est un monde dur, le cinéma?
Bah, pour les femmes, c'est très dur, oui. Ça va peut-être un peu s'arranger petit à petit, mais pour les femmes, c'est très, très dur. Moi, je suis d'une génération où, quand on avait 20 ans, comme je vous disais, moi, quand j'avais 20 ans, je rentrais dans aucun cliché, quoi. Enfin, j'étais atypique. C'est ça que j'ai entendu pendant des années. Oui, vous êtes pas mauvaise, mais vous comprenez, vous êtes atypique. Atypique, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que j'avais pas la taille, que j'avais pas la gueule, que j'avais pas la couleur, que j'avais rien de ce qu'on demandait à une jeune comédienne, quoi. Vous voyez? C'était très difficile. C'est-à-dire, aujourd'hui, je trouve que ça commence vraiment à bouger, qu'il y a des filles qui arrivent à l'écran, il y a 40 ans, on ne les aurait jamais pris. Et c'est bien, c'est formidable.
Vous trouvez qu'il y a un mieux, oui. Que le cinéma est plus ouvert à la diversité?
Ça le fait, oui, bien sûr.
Dans les années 80.
Il y a 40 ans, une fille beurre, il n'y en a pas beaucoup au cinéma. Un garçon non plus, hein. Faut quand même être clair. Hein. Et une fille noire et un garçon noir, morne pleine, il n'y en avait pas. Ça, effectivement, ça bouge parce qu'il y a des gens qui sont battus. Et puis aussi pour les filles, parce qu'il est arrivé des réalisatrices. T'es arrivé des filles qui ont fait bouger l'image des femmes à l'intérieur du cinéma. Elles ont arrêté d'être les femmes de mecs qui avaient 55 ans quand elles en avaient 30, quoi. Vous voyez, c'est un peu fatigant, quoi.
Mais il y a encore une faible visibilité des actrices de plus de 50 ans. Donc il y a encore une discrimination
non,
sur l'âge.
Mais celle-là, c'est pas compliqué. Quand on tourne, soit on est une grand-mère et la plupart du temps, on a Alzheimer. C'est vachement bien. On perd la tête, quoi, vous voyez. Donc, il y a encore du boulot. C'est-à-dire que, effectivement, il y a toute une association sur les actrices de 50 ans qui se battent comme des malades. Parce que normalement, une femme à 50 ans, vous voyez, au cinéma, ben, elle a plus de vie. Elle n'existe plus. Elle a plus de sentiments, elle a plus d'émotions, il lui arrive rien. Elle rentre dans une boîte et puis c'est fini. Or, non. Et moi, je pense que il y a des trucs à jouer jusqu'à je ne sais quel âge, jusqu'à sa mort. Mais quand, je vais vous donner un exemple, quand Charles Vanel avait près de 90 ans et qu'il tournait encore, alors si tout le monde ne sait pas qui est Charles Vanel, c'est un...
Le salaire de la peur.
Le salaire de la peur ou La Belle Équipe ou des choses comme ça. Tout le monde dit, oh, qu'est-ce que c'est beau ce visage complètement parcheminé. C'est pas possible pour une femme, ça, voyez. À qui on allait proposer ça, quoi.
Mais effectivement, ouais. Si ça peut changer, et vous parliez du collectif hein, des actrices ouais. de plus de 50 ans, mais il y a aussi le collectif 50-50
oui,
qui fait
sûr.
Un boulot formidable. Alors,
qui,
plus,
qui fait un vrai
pour
boulot.
Pour la parité, mais on peut imaginer qu'effectivement, avec plus de femmes réalisatrices, les
mais
choses
ça,
les,
c'est vrai parce que ça évolue. Change, ça, ouais. ça, ça évolue, ça change parce que eux aussi, les personnages, ce que les personnages féminins ont à jouer n'est plus la même chose, quoi. Et ça, c'est très, très important. Vraiment très important. Mais il faut continuer à se battre, parce que ça ne va pas se régler comme ça. Hein.
Vous, si vos filles, vous en avez deux, Ariane Ascaride, avaient voulu devenir actrice, vous leur auriez dit quoi ?
Bah, j'aurais rien dit, mais je serais allée me jeter à la scène. Parce que c'est un métier difficile et que... Je ne sais pas si... En... Je les aurais laissé faire, bien entendu, mais c'est compliqué. Soit vous êtes des enfants d'eux et vous vivez aussi de l'humiliation parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va vous dire bah oui toi t'as du boulot parce que t'es la fille d'eux ou voilà. Soit vous êtes l'enfant de personne et on va vous dire ah bah oui mais attends d'où tu sors qu'est-ce que t'as fait oui mais bon les enfants d'acteurs connus qui eux-mêmes deviennent acteurs il faut qu'ils s'accrochent quoi et ils s'accrochent et ils sont moi, j'ai beaucoup de respect pour eux, parce que c'est difficile, c'est difficile. Et puis, bon, c'est difficile d'être acteur, quoi. Enfin, c'est difficile d'être actrice, parce que nous n'existons que dans le désir.
Que dans le regard.
Et dans le regard, et dans le regard amoureux d'un réalisateur ou d'une réalisatrice, et après dans le regard des spectateurs. Moi, c'est ce que je dis toujours, il faut être un peu fou pour se dire qu'on va devenir acteur. Moi, je sais que quand je joue au théâtre, très souvent, je me dis, mais comment ça se fait qu'il y a des gens qui viennent dans la salle pour me regarder? Et comment ça se fait que moi, j'ai pu penser un jour que des gens viendraient s'asseoir dans la salle pour me regarder, que j'ai envie de me montrer, quoi? Enfin, alors c'est plus compliqué que ça, mon métier. Hein. Mais il y a quand même, il y a un endroit où il y a de ça, qu'on le veuille ou non. Et c'est ça qui est vraiment étrange, quoi. Étrange.
Ariane Ascaride, il n'y a pas que le cinéma dans la vie, il y a aussi les séries. Alors après votre prix d'interprétation à Venise pour Gloria Mundi en 2017, vous avez eu les années 2019-2020 qui ont été des années séries pour vous, d'abord avec Les Sauvages de Rebecca Zlotowski et puis Possession, qui vous a valu de passer une partie de l'année entre la France et Israël. Une série très sombre qui célèbre les noces de sang du thriller et du fantastique autour d'une jeune femme soupçonnée d'avoir tué son mari.
Ressortissante qui a été arrêtée cette nuit.
C'est quoi, une affaire de drogue ?
Non, son mari a été assassiné en plein mariage.
Tu te souviens de quoi ?
Du noir.
En fait, vous vouliez pas de ce mariage, c'est ça ?
Pas comme ça !
On est là, attaché à l'eau.
Vous nous avez pourri la vie avec vos croyances de merde !
On peut pas la laisser comme ça. Et personne dans sa famille n'est capable de la protéger.
Là, il nous t'achète.
Possession, donc une série de Thomas Vincent diffusée sur Canal+, et dans lequel vous jouez l'ami de la mère de la victime, une femme assez toxique qui croit à la magie
toxique.
Et au sortilège. Mais quel soulagement, Ariane, quel bonheur de jouer enfin une méchante.
Absolument, j'étais super contente. Et c'était énormément de plaisir de faire ce film avec Thomas Vincent et puis de rencontrer que ce soit Reda, que ce soit Judith Chemla, Dominique Valadier, je la connaissais depuis longtemps, mais Aloïs Sauvage et Nadia, dont j'arrive jamais à dire son nom de famille, mais elle sait que je pense à elle parce qu'elle a un nom très compliqué et qui joue le personnage principal. Et ça, c'était bien aussi parce qu'en fait, Thomas Vincent, c'est le fils d'un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Vincent, qui a été un très grand metteur en scène de théâtre, qui est décédé il y a peu de temps. Et Thomas a le sens du groupe, a le sens du travail ensemble, a le sens du travail avec les acteurs. C'est extrêmement agréable de travailler avec Thomas. Il a c'est un véritable directeur d'acteurs. Et c'est un malin, parce que, en fait, les réalisateurs, les bons réalisateurs, ils savent exactement quand ils font leur casting comment les gens, ils sentent en tout cas comment les gens vont fonctionner entre eux. Et là, c'était que du bonheur, quoi, de travailler tous ensemble au milieu du désert, par 47 degrés.
Le désert du Néguev.
Ouais, et dans des kibboutz et des machins comme ça. Et c'était vraiment formidable de me faire jouer une folle complète, quoi. Mais une folle très gentille, qui donne une image très, très gentille, très, très à l'écoute, très douce, et qui est complètement tapée, quoi. Qu'elle est folle, quoi. Elle est folle. Ça, et c'était génial parce que dès que je jouais un peu, c'était un peu trop intense, Thomas me disait, non, elle est gentille. Et du coup, ça marche vachement bien parce que elle fait un truc ignoble. Je vais pas raconter ce qu'elle fait, mais c'est ignoble ce qu'elle fait.
Et comme... Vous avez un sourire.
Ah, bah oui, parce qu'elle est, du coup, je sais que les gens étaient hyper surpris. Enfin, il y a des gens qui m'ont téléphoné en me disant « Mais t'es monstrueuse, quoi !» Je disais « Ouais, c'est bien. »
Parce que vous avez eu peu l'occasion d'investir des personnages aussi noirs.
Jamais, c'était la première fois. Moi, je suis toujours, vous savez, Sainte-Jeanne des abattoirs, quoi. Vous voyez, la fille gentille. Enfin bon, des personnages un peu plus troubles, hein, comme dans La ville est tranquille de Robert.
Ou Lady Jane.
C'est des personnages que j'aime beaucoup, quoi. Et puis même dans Gloria Mundi, parce qu'elle est pas si simple que ça, elle en peut plus, elle est épuisée, mais enfin bon, elle est par moments pas sympa. Mais là, elle est vraiment folle, quoi. Et ça m'a bien plu.
Et on se dit que tourner, quand on est actrice dans une série, avec le temps que donne le scénario, l'évolution, surtout le temps du tournage, est-ce que ça reproduit un peu ce cocon de la troupe
Ben oui, un peu en fait, parce que, et puis surtout, c'était rigolo parce que on était plusieurs, vraiment plusieurs à habiter à Montreuil. On s'est retrouvés, Thomas habite à Montreuil, Reda habite à Montreuil, Aloïs Sauvage habite à Montreuil, Judith à ce moment-là habitait encore à Montreuil, et moi j'habitais à Montreuil. Donc on faisait un truc en voisin, quoi. Ça avait un truc, il y avait un truc qui nous relayait. Et effectivement, comme on avait le temps de s'installer, oui, c'est... Alors, je ne sais pas comment ça se passe pour les autres, mais je pense que ça... C'est beaucoup Thomas qui met ça. Enfin, de toute façon, toujours le metteur en scène, le réalisateur ou la réalisatrice qui met ça en place. L'esprit d'un tournage, c'est le capitaine du navire qui le donne. Et Thomas, pour ça, il est très chaleureux, très précis. Et donc, du coup, exigeant, c'est bien, quoi. Donc, on a vraiment l'impression... Et voilà, on travaille ensemble. Et en plus, quand vous êtes à l'étranger, du coup, vous rentrez pas chez vous le soir. Donc, vous êtes... ça se construit, il y a une espèce d'histoire
qui se construit. C'est la petite colonie.
Oui, voilà. C'est une histoire qui se construit, l'histoire d'un groupe, le temps d'un tournage.
Merci beaucoup, Ariane Ascaride.
Merci à vous.
Et on recommande la lecture de vos lettres au fantôme du père. C'est paru aux éditions du Seuil. Ça s'appelle Bonjour Pas. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la dernière lettre, parce qu'elle est adressée à votre mère. Et puis, on espère vous retrouver bientôt sur les planches avec le dernier jour du jeûne de Simon Abkarian.
Nous serions tellement heureux de vous accueillir, vraiment.
Merci beaucoup. Guilty undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. Drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you, I want you, yes, I want you so bad. I Want You de Bob Dylan, une chanson qu'on entend dans une scène culte de Kilosa, donc un des premiers films de Robert Guédiguian avec Ariane Ascaride, Gérard Mélan et Jean-Pierre Daroussin. Et maintenant, Sophie, comme chaque semaine, on feuillette avec vous le journal du cinéma, première étape, le Burkina Faso.
Oui, et plus exactement Ouagadougou, où aurait dû se tenir à compter du 27 février le FESPACO, le Festival panafricain du cinéma. Ce principal rendez-vous du 7e art en Afrique a été reporté jusqu'à nouvel ordre, sans date prévue de reprise. La décision a été prise, évidemment, dans un contexte sanitaire de plus en plus lourd par le Conseil des ministres burkinabé. C'était prévisible et il y avait un manque de films candidats pour le FESPACO. Donc on espère qu'il pourra se tenir dès que ce sera possible.
Et d'autres festivals ont aussi du mal à tenir leur délai. En revanche, il y aura bien des cérémonies de remise des prix, même si c'est sous une forme bien évidemment virtuelle. Les Golden Globes, entre autres, les prix décernés à Hollywood par la presse étrangère, seront remis le 28 février prochain. Et on a les nominations, Sophie, sans surprise, hein, ce sont les grandes plateformes de streaming qui tirent leur épingle du jeu.
Oui, le coronavirus a provoqué la fermeture des salles de cinéma, mis à l'arrêt les tournages et décalé la saison des prix. Mais au-delà, la pandémie met en lumière les changements à l'œuvre dans la production audiovisuelle. Les plateformes de streaming font la course en tête des nominations aux Golden Globes et la grande gagnante, c'est Netflix qui s'offre 22 citations contre 17 l'an dernier du côté des films. C'est Mank de David Fincher qui apparaît comme le grand favori avec 6 nominations.
Mank, it's Orson Welles.
Of course it is.
I think it's time we talk.
What is it the writer says? Tell the story you know.
La production en noir et blanc pour cinéphiles, Mank raconte la jeunesse du chef-d'œuvre d'Orson Welles, Citizen Kane. Un autre long-métrage Netflix, Les Sept de Chicago, d'Aaron Sorkin, sur un procès retentissant au moment de la guerre du Vietnam, arrive à la seconde place avec 5 nominations.
Cette année, plusieurs femmes sont nommées dans la catégorie du meilleur cinéaste. Et puis Sophie, plusieurs Français pourrait bien remporter un Golden Globe.
Oui, à commencer par...
C'est nouveau.
Enfin, en tout cas, à ce point, c'est assez inégalé. À commencer par Tahar Rahim, nommé dans la catégorie meilleur acteur dans un drame pour son rôle dans Désigné coupable.
Where I'm from, in Mauritania, we know not to trust the police. But never did I believe that the United States of America would use fear and terror to control me.
A couple sleepless nights.
Voilà, dans Désigné coupable de Kevin MacDonald, Tahar Rahim incarne Mohamedou Ould Slahi, un Mauritanien suspecté à tort de terrorisme et enfermé pendant 14 ans à Guantanamo. Son avocate, qu'il fera libérer à force d'acharnement judiciaire, est jouée par Jodie Foster. Autre Français nommé aux Golden Globes 2, le candidat d'ailleurs français aux Oscars pour le prix du meilleur film étranger, ou encore le compositeur Alexandre Desplat.
Et enfin, on salue la mémoire de Jean-Daniel Simon, cinéaste, acteur et scénariste français, cofondateur de la SRF et de la quinzaine des réalisateurs.
Oui, on a appris sa mort cette semaine, des suites d'une longue maladie. Jean-Daniel Simon avait commencé très tôt à réaliser des films, devenant à 24 ans, en 1967, le plus jeune metteur en scène de France. Après mai 68, il participe à la création de la SRF, dont il sera vice-président pendant 8 ans. Il œuvre à la création de la quinzaine des réalisateurs de Cannes. C'était un militant très engagé, un militant communiste, et il vivait depuis une dizaine d'années au Sénégal, un pays que lui avait fait connaître son ami Mahama Johnson Traoré. On l'avait aussi vu comme acteur dans le rôle d'un capitaine français dans le camp de Thiaroy d'Ousmane Sembène.
Jean-Daniel Simon, tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Sophie Torlotin
et Elisabeth Le Quéré, à la réalisation Fanny Renard.
Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même cinéma.
RFI, la sélection du mois.